On va aller dans Apocalypse chapitre 12, les versets 7 à 12. Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 12. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Alors, vous pouvez vous asseoir. Alors, aujourd'hui, le titre était facile à trouver. « Le dragon est expulsé du ciel. » Alors, il est expulsé du ciel. On va regarder, il va y avoir comme développement de trois idées. L'expulsion de Satan du ciel, son exécution. Le verset 7 à 9 nous parle comment ça a été fait. L'expulsion du ciel entraîne une inauguration. On va voir qu'à partir du chapitre 10, à partir du verset 10 et verset 11, ça inaugure le royaume, parce qu'on parle du royaume de Christ, on parle de l'inauguration. Et l'expulsion de Satan suscite aussi une conscientisation. Elle est double, la conscientisation, parce qu'on parle « Cieux, réjouissez-vous, puis terre, malheur à vous, parce que le malin est descendu, et il y a peu de temps, et il va attaquer fort. » Alors, c'est ça que... Alors, dans notre dernier sermon, qu'on avait fait la semaine dernière, dans le verset 1 à 6, on avait appris que le livre de l'Apocalypse, pour bien le comprendre, on peut saisir qu'il y a deux parties. Chapitre 1 à 11 et chapitre 12 à 22. On avait dit que les deux parties de l'Apocalypse ont un thème qui est commun. Le même thème, autrement dit. On parle de la même chose, mais sous un angle différent. Autrement dit, le thème qui est commun, c'est la victoire de Christ et de son Église sur Satan et ses alliés. Donc, on parle de la même chose, mais dans une perspective différente. Qu'est-ce qu'on veut dire par perspective? Dans les chapitres 1 à 11, on voit les choses dans la perspective terrestre. Autrement dit, c'est un peu comme quelqu'un qui étudie l'histoire de l'Église, puis il voit tout ce qui s'est passé depuis aller jusqu'à aujourd'hui, mais juste le côté terrestre. Alors ça, c'est ce qu'on pourrait appeler l'avant-scène. On peut observer, on peut voir, on peut même donner des chiffres, des dates. Et tandis que la partie 12 à 22, c'est exactement la même histoire de la victoire de Christ et de son Église qui a la victoire sur Satan et ses alliés, mais c'est dans la perspective céleste. Autrement dit, dans une perspective invisible. Le Seigneur veut qu'on voit comment la victoire de Christ s'est faite, mais en arrière-scène. Tu sais, on voit quand on voit dans une pièce de théâtre, il y a l'avant-scène, ce qu'on voit quand on est assis dans la salle, mais l'arrière-scène, c'est celui qui a préparé la pièce, celui qui a tout mis les choses en place, ce qu'on voit pas. Autrement dit, quand on va dans une pièce de théâtre, il y a plein de choses qu'on voit pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'action en arrière du rideau. C'est un peu la même chose. Le Seigneur veut qu'on voit ce qui se passe en arrière du rideau. L'œuvre du malin qui a toujours travaillé. Ce qui se passe sur la terre, autrement dit, il veut qu'on voit que c'est influencé par ce qui se passe en arrière. Très intéressant de voir la différence de perspective. Alors, dans la perspective terrestre, c'est l'avant-scène avec les acteurs humains. Puis dans la perspective 12 à 22, c'est la perspective céleste, invisible, cachée à l'œil de l'homme. C'est ce qui se déroule en arrière-scène avec les acteurs spirituels. On les voit pas. Hein? Quand on dit dans Éphésiens 6 qu'il y a une guerre actuellement, on entend-tu des boums, on entend-tu du feu, des gens qui sont tués? Pourtant, ça se passe à la terre. Mais c'est le malin qui travaille en arrière de tout cela. Là. Très intéressant de noter ça. Donc, l'arrière-scène, c'est des acteurs spirituels. Le Seigneur veut qu'on voit l'histoire de la victoire de Jésus-Christ sur Satan et ses alliés, mais dans la perspective des choses arrière-scène, les choses qu'on ne voit pas. Très intéressant. Parce qu'à ce moment-là, on lit, à partir du chapitre 12, aller jusqu'à la fin, on comprend qu'on étudie la même histoire que de 1 à 11, mais dans la perspective des choses qu'on ne voit pas. Mais le Seigneur veut qu'on les voit. S'il nous l'a donné de l'Apocalypse, c'est parce qu'il veut qu'on les voit. Alors, on doit comprendre qu'à partir du chapitre 12, on est rentré dedans la semaine dernière, Dieu veut montrer aux croyants ce qui se passe dans le monde invisible, l'arrière-scène. Ce monde existe même si nous ne le voyons pas. Quand on parle de guerre spirituelle, quand on lit Éphésiens 5 puis il nous dit qu'on est dans une guerre spirituelle, des fois, on lit les paroles puis on a de la misère à croire que c'est une réalité. Là. C'est vraiment une réalité. Il faut prendre conscience qu'on se bat contre des ennemis invisibles. Et ces ennemis-là ont l'influence de tout ce qui se passe sur la terre, dans nos vies personnelles, dans les vies de l'Église locale, dans la vie de toute l'Église du monde entier. Ils sont très, très présents en arrière-scène et ils agissent continuellement. Ils agissent dans nos vies tous les jours. Il n'y a pas une journée que le malin ne vient pas travailler dans vos vies. Il n'y a pas une journée que le malin ne vient pas travailler dans l'église locale non plus. Il n'y a pas une journée qu'il ne travaille pas au niveau de toute l'église du monde. On rentre dans une section à partir du chapitre 12, aller jusqu'au chapitre 14. On va voir se lever les principales forces qui s'opposent à Christ et à son église. Alors, c'est sûr qu'on va aller plus loin que ça, mais le premier qu'on va voir, c'est le dragon. C'est drôle que le Seigneur, le premier mot qu'il utilise pour parler de Satan, c'est le dragon. Un dragon, c'est comme une bête qui, si on en verra une pour le vrai, là, on sera mort de peur. Parce que c'est puissant, et c'est colérique, et c'est méchant, ça veut détruire. Alors, il parle de Satan en ces termes-là, le dragon. Ensuite, il va nous parler de la bête qui monte de la mer. Souvent dans les Écritures, la mer, c'est qui sort du peuple, qui sort des nations. Puis la terre, c'est souvent ce qui sort d'Israël. Pas tout le temps, mais je vais vous dire ça comme ça. Alors, on dit les forces, le dragon. Ensuite, la bête qui monte de la terre. Ensuite, la bête qui monte de la mer. Et ensuite, on va nous parler de Babylone et on va nous parler des hommes qui vont porter la marque de la bête. Alors, le premier point qu'on va regarder, c'est l'expulsion de Satan du ciel, l'exécution, versets 7 à 9. L'exécution de cette guerre-là, elle se produit dans le ciel et elle s'exécute par un combat. Il y eut un combat, ça dépendamment des versions, il y en a qui vont dire « guerre », c'est la même chose. Il y a eu un combat dans le ciel. Alors, voyez-vous, on voit la perspective. Là. Où est-ce qu'elle se passe l'action? Dans le ciel. Avant, c'était sur la terre, là, c'est dans le ciel. Alors, il y a eu un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattaient contre le dragon. Alors, on parle de Michel dans les Écritures comme étant un archange. Un archange, c'est un chef des anges, des bons anges, des anges non déchus, qui ont combattu pour jeter les démons et Satan dehors du ciel. Et le dragon combattait avec ses anges. Donc, il y a eu comme deux armées, et il y avait le dragon qui se battait contre l'autre armée. Et ça nous dit... Alors, le verset qui nous apprend qu'il y a une guerre qui fait rage au ciel et qui oppose l'archange Michel et ses anges contre le dragon. Et on sait que le dragon, parce qu'on l'identifie un petit peu plus loin, le dragon, c'est Satan et ses anges. Ces deux redoutables armées sont en présence l'une de l'autre et elles sont toutes deux sous les ordres d'un général en chef. on voit que l'initiative du combat, il y a quelque chose qui se passe au ciel, et l'initiative du combat, on va voir tantôt que c'est rattaché au verset 6. Souvent, quand on lit, puis qu'on étudie des sections comme ça, on oublie ce qui a été dit avant. On ne fait pas les liens. Et quand on ne fait pas ça, ben là, on en manque des bouts. Alors, l'initiative du combat est attribuée à l'archange Michel. Autrement dit, c'est comme si c'est Michel et ses anges qui ont décidé de jeter Satan et ses anges en dehors du ciel. Alors, quelques caractéristiques qu'on apprend sur l'archange Michel. Premièrement, on apprend dans d'autres versets, dans d'autres parties des Écritures, qui il est. Un, il est l'opposant de Satan. Imaginez-vous, Satan est très puissant, très intelligent. Les Écritures nous parlent de Satan comme étant l'être le plus brillant que Dieu a créé. Pour se battre contre lui, il fallait que l'archange qui allait se battre contre lui soit extrêmement puissant aussi. Alors, il est l'opposant de Satan. On lit dans Jude 1, verset 9. Là, ici, on vient de nommer son titre. Ça dit, « Or, Michel, l'archange, lorsqu'il contestait avec le diable, touchant le corps de Moïse, n'osa pas porter de sentence de malédiction, mais il dit, « Que le Seigneur te réprime. » Malgré sa puissance, parce qu'il va démontrer qu'il est plus fort que Satan, il n'a pas osé se prendre pour Dieu. Il a laissé à Dieu le jugement. C'est très intéressant de noter ça. Et il est aussi un chef guerrier qui est au service de Dieu dans des missions terrestres. Si on recule dans le livre de Daniel, chapitre 10, versets 13 et 14, et aussi versets 20 et 21, on voit que Dieu se sert de l'archange Michel dans des missions terrestres. Il l'envoie sur la terre pour faire des choses précises concernant de la politique, ce qu'on pourrait appeler de la géopolitique. Quand le Seigneur dit que tel pays c'est fini, puis que Satan s'oppose, il envoie son archange pour régler les choses. On le voit ici pour la Perse. Chapitre 10 de Daniel, versets 13 et 14. « Mais le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Et voici Michael, là-dedans c'est la même chose que Michel, et voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide. Je suis demeuré là, auprès des rois de Perse. Et je viens maintenant pour te faire entendre ce qui doit arriver à ton peuple dans les derniers jours, car la vision s'étend jusqu'à ces jours-là. » Il est en train de montrer ce qui est en train de s'arriver aujourd'hui. Et versets 20 et 21, « Et il me dit, « Sais-tu pourquoi je suis sorti vers toi? Et maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de Perse. Et quand je serai parti, voici le chef de Javan viendra. » Javan, c'est à quoi? La Grèce. Alors, autrement dit, il est en train de montrer que l'archange Michel est utilisé par Dieu dans les affaires politiques de cette vie. Il dit, « Et le chef Javan viendra, mais je t'annoncerai ce qui est écrit dans le livre de vérité. Il n'y a personne qui me soutienne contre ceux-là, sinon Michael, votre chef. » Alors, c'est un chef guerrier au service de Dieu dans les missions terrestres. Et aussi, les Écritures nous apprennent dans les versets 1 à 4 de Daniel 12 qu'il est le défenseur du peuple de Dieu, défenseur du peuple d'Israël, et qu'il est un grand chef. Voyez-vous, dans chapitre 12, ça dit, « En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu depuis qu'il existe des nations jusqu'à ce temps-là. Et en ce temps-là, ton peuple échappera, savoir quiconque sera trouvé écrit dans le livre. Et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et une infamie éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur de l'étendue, et ceux qui en auront amené plusieurs à la justice brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Et toi, Daniel, cache ces choses, cache ces paroles et scelle ce livre jusqu'au temps de la fin. Intéressant, hein? Il dit, ne parle pas de ça jusqu'au temps de la fin. Il y a beaucoup de monde qui pense qu'on est au temps de la fin. Alors, autrement dit, ce qui lui a été révélé, ce serait le moment de le révéler là. Et il dit, plusieurs le parcourront et la connaissance augmentera. Donc, le verset 7 nous dit qu'il va subir une terrible défaite. Dans le verset 8, on voit que c'est une victoire des deux armées. C'est l'armée de Michel qui a gagné, autrement dit. Et il dit, verset 8, « Et ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne se retrouvera plus dans le ciel. » Autrement dit, c'est prendre les anges, puis les mettre à la porte dehors. Alors, le pasteur et commentateur Herman Oxema, c'est le livre principal que j'utilise pour préparer les sermons, donne l'interprétation suivante. Il affirme que la raison du combat est la contestation par Satan et ses anges que les croyants de l'Ancien Testament aient droit à leur place dans le ciel parce qu'ils considérèrent que l'œuvre rédemptrice de Christ n'est pas encore accomplie et réalisée historiquement. C'est un peu comme si Satan et ses anges savaient qu'il y avait du monde au ciel, des croyants de l'Ancien Testament. C'est comme s'ils contestaient avec Dieu ou avec les anges qui sont déjà présents ce qu'ils font ici, eux autres. C'est des pécheurs. L'œuvre de Christ n'est pas réalisée. C'est comme le Seigneur l'avait décrété dans son décret. Et un décret de Dieu, c'est quelque chose qui s'exécute automatiquement, avec force et puissance. Il n'y a pas aucun décret, aucune décision divine qui se prend, qui ne se accomplit pas. Alors, on sait, par le Nouveau Testament, et là, on aurait pu aller chercher une multitude de versets, on sait que le droit au ciel des croyants de l'Ancien Testament reposait sur le décret divin du salut qui avait été fait de toute éternité. Mais il reste que Satan et ses anges pouvaient dire, comment ça se fait qu'ils sont là, eux autres? Ils n'ont pas de droit au ciel. Et c'est là que s'est fait la division. Alors, Éphésiens 1, versets 3 à 5 nous rappelle que la décision de sauver autant les croyants de l'Ancien Testament que ceux du Nouveau Testament a été prise de toute éternité. Éphésiens chapitre 1, versets 3 à 5. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, par Christ, selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui par la charité, nous ayant prédestinés à être ses enfants adoptifs par le moyen de Jésus-Christ, d'après le bon plaisir de sa volonté. Pour bien saisir, parce qu'il y a un mot, quand on arrive au verset 6, il y a un mot qui est important, on va le regarder. Dans le verset 7, ça commence par « alors ». Pour bien saisir le moment exact de cette guerre-là, autrement dit, elle se produit quand, cette guerre-là? Nous devons rattacher ce qui avait été dit dans les versets 5 et 6 du même chapitre concernant la protection de l'Église et la durée de cette protection-là. On le relit dans les versets 5 et 6 du chapitre 12. « Or, elle enfanta un fils. » On se souvient juste à qui? Elle, l'Église. Or, elle enfanta un fils qui devait gouverner toutes les nations avec un sceptre de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu, vers son trône, et la femme s'enfuit dans un désert où Dieu lui avait préparé un lieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. On avait déterminé la semaine dernière que le 1260 jours, c'est toute la période à partir de l'ascension du Christ aller jusqu'à la fin. Autrement dit, à partir du moment où que cette protection-là est faite, le premier mot qui apparaît dans le verset 7, c'est « alors ». En tout cas, du moins dans la version Osterwald. Alors, est très significatif, il indique le moment du début de la guerre entre les deux armées. Lorsque l'œuvre de Christ sur la terre a été pleinement réalisée, sa mort, son ascension et sa résurrection, les contestations de Satan ont perdu toute leur force et leur pertinence. C'est à partir du moment où Jésus est venu, il a fait son œuvre sur la terre, sur la croix, il a monté au ciel, ça veut dire que c'est terminé. Ils n'ont plus aucun droit de contester la présence des croyants de l'Ancien Testament dans le ciel. Ça ne marche plus, les affaires. Dieu leur démontre par Jésus-Christ que ces gens-là avaient le droit par le décret divin, d'abord. Mais là, c'est comme l'œuvre de Christ est réalisée, est accomplie. Alors là, ils n'ont plus aucune pertinence dans leurs affaires. William Hendrickson, dans son commentaire sur l'Apocalypse, voici ce qu'il dit sur ce passage-là. Il dit « Satan est précipité hors du ciel. Il perd sa place d'accusateur des frères. Puisque Christ est né et a pleinement payé pour le péché, les accusations de Satan perdent toute justification. Il est vrai qu'il s'emploie aujourd'hui encore à accuser les chrétiens. Mais il ne peut plus ignorer que l'œuvre du Sauveur est accomplie, historiquement. Christ a pleinement expié tout péché. Lorsqu'il est monté au ciel, la justice de Dieu était totalement satisfaite. » On voit aussi, le verset 9, qu'il y a une exécution. L'exécution de sortir les anges mauvais du ciel avec Satan, ça inaugure quelque chose pour la terre. C'est un mauvais augure. Et le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit tout le monde, fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. C'est très intéressant parce qu'à un moment donné, quand on lit les auteurs, ils nous disent... Remarquez bien les titres qui sont donnés à Satan parce qu'ils sont extrêmement significatifs et très révélateurs d'un côté, d'un aspect ou d'un autre de sa personnalité, de ce qu'il a fait. On parle d'abord, le premier titre qui est utilisé, « Et le grand dragon ». On ne dit pas « Et le dragon », le grand dragon. Alors, quelque part, ça veut démontrer la férocité. Un dragon, c'est féroce. Ça veut détruire, ça a soif de sang, et ça sème la peur et la terreur. C'est un monstre qui est puissant, et qui est rempli de colère, et qui est un ennemi actif du peuple de Dieu. C'est vraiment, c'est une image, on utilise l'image du dragon pour démontrer la puissance de Satan et sa volonté de détruire. Il y a un autre titre qui lui est donné, c'est celui de serpent ancien. On sait que Satan... C'est dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, versets 14 et 15, qui nous parle de la question de la chute et que Satan était derrière la chute. Dans les versets 14 et 15 du Genèse 3, ça dit « Et l'Éternel dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » Et la femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Alors l'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre toutes les bêtes et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » C'est en train de dire, la postérité de la femme, c'est l'Église, c'est Jésus. Et ça dit, et sa postérité, alors la postérité va écraser la tête. Dans les Écritures, dans le Nouveau Testament, on nous parle souvent que c'est Jésus qui écrase la tête du malin. Puis, blessé au talon, ça veut dire que lui, il va être assez puissant quand même pour amener des blessures, amener des choses à l'Église de Dieu. Le serpent ancien est aussi mentionné dans l'Évangile de Jean, chapitre 8, verset 44, lorsque Jésus dit aux Juifs, « Le Père dont vous êtes issus, c'est le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il n'a point persisté dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il dit le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. » Quand on observe la situation et l'œuvre de l'ennemi dans tout ce qui se passe à la terre, quelles sont les deux caractéristiques qui reviennent? Les enfants du malin ressemblent à leur maître. Le malin est un meurtrier, le malin est un menteur, tous ceux qui servent le malin n'hésitent pas à tuer et n'hésitent pas non plus à mentir à tour de bras à tout le monde, sans exception. Alors on voit que, pas pour rien qu'ils utilisent tous ces noms-là concernant pourquoi ils ont mis dehors. Un destructeur, le grand dragon, le serpent ancien. On dit aussi dans Jean, 1 Jean, chapitre 3, verset 8, « Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. » Très intéressant. Alors, le destructeur qui va être détruit. Et Colossiens, chapitre 2, verset 15, dit aussi, « Ayant dépouillé les principautés et les puissances, qu'il a publiquement exposé en spectacle en triomphant d'elle sur cette croix. » Alors, deux titres dont on a révélé un peu la signification et le rattachement avec d'autres versets. Le grand dragon, le serpent ancien. Là, on parle de le diable. Le diable, c'est l'adversaire, le calomniateur, l'accusateur. Hébreux, chapitre 2, verset 14. Puis donc que les enfants participent de la chair et du sang, il en a aussi de même participé, afin que par la mort, il détruisit celui qui avait l'empire de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est intéressant de tout rattacher l'ensemble des titres que la Bible donne à Satan et rattacher ça avec le fait que c'est tout ça qu'on veut mettre dehors, là. Et le titre, le dernier, quand on parlait « Le diable et Satan », Satan, ben, je pense qu'une de ses caractéristiques, c'est vraiment celle d'être un séducteur. Il a voulu séduire les hommes avec une multitude de moyens. La sorcellerie, qui aujourd'hui règne un peu partout sur la terre. La magie, aussi qui s'en vient de plus en plus moderne. Qu'est-ce qui pogne aujourd'hui? C'est les films de magie, les livres de magie. Tout ce qui concerne la magie, les sciences occultes, c'est extrêmement populaire. Et là, on est dans le monde de malins. Quand c'est un séducteur, quel est le but d'amener toutes ces choses-là et de présenter ça aux hommes? Le but, c'est très certainement de les séduire. Les fraudes, les fausses religions. Aujourd'hui, on veut unir les religions du monde en disant qu'il n'y en a qu'on veut en faire juste une. Mais ceux qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur religion, c'est une fausse religion. Et une fausse religion, ça a pour but de maintenir les hommes dans l'erreur et de les maintenir dans leur condamnation et dans la perdition. Il faut prendre conscience de l'œuvre de l'ennemi sur la terre est énorme. Et c'est toute son œuvre, toutes ces affaires-là. Les fausses philosophies, les sciences occultes, ça c'est plus populaire que jamais. Le pouvoir, chercher à convaincre les hommes que c'est par le pouvoir que tu demeures sur la terre. La sexualité débridée, mais là, je pense qu'on commence à en avoir de plus en plus conscience autour de nous. C'est épouvantable où qu'on est rendu, et c'est pas fini. Parce que ce qui nous est annoncé, là, c'est qu'il y a des choses qu'on considérait comme des perversions qu'on pouvait emmener les gens en prison il y a quelques années. On est rendu qu'on veut normaliser ces choses-là. Alors, quelque part, le malin est plus actif que jamais. Et en même temps, il va faire la promotion de toutes les valeurs et de toutes les pratiques du monde païen. Quand on dit N'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. Moi, il y a quelqu'un qui m'avait dit, les deux bras m'ont tombé parce que. Il dit, il faut faire attention, n'aimez pas le monde. J'ai bien vu qu'il n'avait pas compris, là. N'aimez pas le monde, pour lui, le monde, c'est n'aimez pas les gens. Il ne comprenait pas ce que ça veut dire, n'aimez pas le monde. Le monde, c'est les valeurs que toute la société cherche à nous envoyer par les médias, par la télévision, la radio, le cinéma et tous les moyens possibles imaginables, l'éducation que les gens ont dans les écoles. Alors, n'aimez pas le monde, c'est ça que veut dire. Alors, il y a plein de pratiques qui viennent du monde, plein de valeurs qui nous viennent du monde. Très intéressant aussi de faire le lien avec Luc 10, versets 17 à 22, quand le Seigneur dit « Or, les 70 disciples revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même sont assujettis en ton nom. » Et il leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toutes les forces de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont assujettis, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » En ce même instant, Jésus tressaillit de joie en son esprit et dit, « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, ô Père, cela est ainsi parce que tu l'as trouvé bon. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et nul ne connaît qui est le Fils et que le Père, ni qui est le Père que le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Mais ça nous amène à la mauvaise augure. Une mauvaise augure, c'est quelque chose d'une mauvaise nouvelle. Alors, l'orgueil de Satan, bien entendu, est démesuré. Il sait qu'il est vaincu. Satan, actuellement, il sait qu'il est vaincu. Il sait, il a la preuve. Il est convaincu qu'il est convaincu. Mais c'est pour dire l'orgueil. Hein. Des fois, il y a des gens qui sont perdus. Ils ont perdu, mais même après qu'ils ont perdu, ils veulent pas l'avouer. Alors, l'orgueil de Satan est démesuré. Il sait qu'il est vaincu, mais il n'abandonne pas la lutte. Maintenant, son énergie va se transférer de place. C'était Christ qui haïssait. Maintenant qu'il sait qu'il n'a plus accès au ciel, il va transférer sa haine sur nous. Ça, c'est pas une bonne nouvelle, là. Alors, l'expulsion de Satan entraîne une inauguration des versets 10 à 11. L'inauguration, c'est quand on fait une inauguration de bâtisse, quoi que ce soit. Là, il inaugure quelque chose parce qu'il dit, « Puis j'ai entendu dans le ciel une grande voix. » Donc, quelque chose, une voix puissante, une voix forte, qui disait, faut porter attention aux mots. On a dit « alors », qui faisait une référence avec le verset 5 et le verset 6, et maintenant, on dit « maintenant ». « Maintenant sont venus ». Alors, le fait que Christ est monté au ciel avec son Église, parce que son Église est en lui, ça fait en sorte que « maintenant est venu le salut ». Alors, il dit, le verset bien, nous parle d'une voix forte, sans nous mentionner qui parle. La mention, qu'elle soit grande, nous indique sa solennité et son autorité. Le mot « maintenant » souligne le moment de cette victoire. La voix célèbre la victoire et ses implications. Autrement dit, ses principaux effets. Cette victoire-là, c'est quoi les effets que ça a? Il va y mentionner dans le verset 10b. Il y a des effets multiples. Alors, il dit, « Maintenant sont venus le salut et la force et le règne de notre Dieu et la puissance de son Christ, car l'accusateur de nos frères, qui les accusait jour et nuit devant la face de notre Dieu, a été précipité. » qui est plus haut. Le Seigneur veut nous faire connaître les principaux effets de la défaite de Satan qui est délogé du ciel par le Christ victorieux. Donc, il y a quatre effets. Le premier, c'est le salut de Dieu qui est maintenant accompli et manifeste. Si Christ est rendu au ciel, ça veut dire que la mission que Dieu lui avait donnée d'être le rédempteur des hommes, de venir accomplir son œuvre sur la terre, s'il est maintenant monté au ciel et ressuscité, c'est la preuve que son œuvre qu'il avait à faire est terminée. Donc, le salut de Dieu est maintenant accompli et il est manifeste. Manifeste, ça veut dire visible aux yeux de tous. Salut est arrivé. Donc, la plénitude de son salut et son caractère est absolu et irréversible. Il dit la force, la règne, le règne et la puissance sont ses caractéristiques incontestables et bénies. Ce sont des faits révélés et solidement établis. Dans le verset 11, ça nous dit « Par quel moyen que nous, les gens de l'Église, on va obtenir la victoire et la persévérance dans le témoignage? » Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole à laquelle ils ont rendu témoignage et ils n'ont point préféré leur vie à la mort. Ici, il y a un passage, il faudrait prendre des... On pourrait en parler longtemps, là. Comment il y a des chrétiens au cours de l'histoire de l'Église, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, tout au cours de l'histoire de l'Église, des gens qui, plutôt que de renoncer à leur Sauveur Jésus-Christ, ont préféré mourir. Il y en a qui ont été martyrisés, il y en a qui ont été brûlés, il y en a qui ont été... Hey, quand là, tu es placé devant un choix, renonce à Christ, là, puis on va te le saluer. Il faut que tu sois convaincu, pas à peu près, là, pour dire « Jamais je ne renoncerai à mon Sauveur. Jamais. Je préfère mourir. » Puis il y a plusieurs personnes tout au cours de l'histoire qui ont fait ça. Alors la question qu'on peut se poser, c'est « Est-ce que moi, j'aurais la force si jamais la chose arriverait? » Non, vous n'auriez pas la force. Alors si vous accepteriez de mourir par... Pareil, elle viendrait d'où la force? Par grâce, par Dieu, par le soutien divin. Il n'y a pas personne d'être humain qui est capable de traverser des choses similaires, comme quand les premiers chrétiens se faisaient brûler, manger par les lions. Quand t'es dans l'arène, là, puis t'es sorti les lions, puis faisaient exprès pour pas les nourrir pendant des journées, là, le lion était affamé, il te les lâchait. Si tu pouvais, si tu avais pu dire, OK, oh, je renonce. S'il décidait de continuer, c'était quoi la force? Elle venait d'où? C'est clair qu'elle venait de Dieu. C'est Dieu qui te permet de traverser des périodes. Si jamais Dieu permet que des circonstances similaires ou aussi difficiles viennent sur la terre encore, mais faut pas se faire d'illusions, penser, oh, ben, moi, je te le dis, je chercherai assez fort. Pas sûr. Tu es mieux de le demander au Seigneur. Si le Seigneur te l'accorde, il va te l'accorder. Parce qu'un véritable croyant, il va t'accorder cette affaire-là. Et il nous dit les deux moyens, vaincus par le sang de l'agneau et par la parole. Autrement dit, le rôle de la parole dans toute notre force physique, notre force morale, notre persévérance dans l'effort, elle vient de Dieu à cause de l'œuvre de Jésus-Christ et à cause de la parole de Dieu. Alors, il nous dit, le peuple de Dieu va persévérer dans son témoignage à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de Dieu et à cause de la capacité à vaincre, même au prix de ta propre vie. Comment se fait-il que ça n'est pas arrivé en Amérique du Nord ou un peu partout? Il y a du monde actuellement, quand on lit l'histoire de ceux qui sont persécutés, les chrétiens persécutés dans le monde, là, il y en a qui ont été obligés de donner leur vie. C'est là qu'on voit, ma foi est assez solide pour... Moi, je réponds tout de suite, non, mais avec Christ, oui. Ça, il faut prendre conscience de ça. Parce que moi, j'ai déjà entendu quelqu'un me dire, moi, là, si il fallait que j'arrive, je sais que je ne serais pas capable. Mais oui, c'est correct. Il faut que tu prennes conscience que tu ne seras pas capable. Il faut que tu te prennes conscience que la seule force que tu peux aller chercher dans des circonstances similaires, il faut qu'elle vienne de Dieu. Alors, le verset 12 nous amène une conscientisation double. La première, c'est « Pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui y habitez? » Autrement dit, le passage nous enseigne qu'il y a deux choses qui arrivent suite aux effets de ça. Dans le ciel, réjouissez-vous. Vous avez gagné. Mais sur la terre, préparez-vous. Parce que le combat va être dur. Il va être d'autant plus dur qu'il sait qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Alors, le verset 12 nous amène à réaliser deux autres effets de la défaite du malin et de ses anges. La réjouissance des habitants du ciel, dans le verset 12, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui y habitez. Alors, le ciel et ses habitants sont exhortés à se réjouir des conséquences de la défaite du grand ennemi du Seigneur. Rappelons-nous que les saintes Écritures nous enseignent que le ciel se réjouit chaque fois qu'un pécheur se repent. Juste à penser à ça, c'est assez spécial. Hein? La journée que tu es venu au Seigneur, il y a des réjouissances dans le ciel. Parce qu'il y a des fois, il y en a qui doivent faire des méchants parties, parce qu'il y en a qui faisaient dur avant d'être sauvés. Alors, je vous dis qu'il y aura même plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Je vous dis qu'il y a même de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Donc, la population céleste se réjouit lorsqu'il y a des gens qui se repentent. Et la dernière chose qui nous avertit, malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous en grande fureur. On sait qu'il est déjà colérique de nature, mais là, il est enragé, mais pas à peu près. Puis ça nous dit en plus qu'il est conscient qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Alors, il va essayer par tous les moyens possibles imaginables et toute la séduction possible imaginable et toute la violence possible imaginable de détruire le maximum, malgré le fait qu'il sait qu'il est perdu. Alors, on sait qu'on va avoir des attaques furieuses du diable et on sait qu'on va avoir des agressions multipliées et qui vont être concentrées à cause de son peu de temps. Sa volonté de destruction ne peut pas être assouvie. Trois applications du texte d'aujourd'hui. La première, l'expulsion de Satan hors du ciel scelle sa défaite. Christ est vainqueur et comme le dit les Saintes Écritures, à cause de sa personne et de son œuvre de rédemption, nous sommes plus que vainqueurs. Que toute la gloire lui soit donnée, qu'il soit béni, loué et adoré éternellement. Deuxième application, rendons grâce au Seigneur pour les effets libérateurs de la défaite monumentale de Satan et de ses anges. Premièrement, la solidité inébranlable du salut en Jésus-Christ, la persévérance de notre témoignage et l'assurance absolue de notre destinée éternelle. Sachons nous réjouir en tout temps et en toutes circonstances de sa victoire et aussi de la nôtre. Et dernière application, soyons conscients que le malin est encore très actif sur cette terre. Implorons la protection de Dieu et utilisons tous les moyens de grâce à notre disposition pour combattre Satan. Très important la liste, les chiens. L'adoration individuelle, l'adoration en couple, l'adoration en famille, l'adoration en église, la prière quotidienne et fervente, l'amour concret des frères et des sœurs en Christ et aussi l'évangélisation. Que le Christ demeure le centre de nos pensées et de nos actions, pour sa grâce et pour sa gloire. Amen.